Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux. Je vous remercie d'être là chaque jour de l'autre côté du poste et de nous accorder un petit peu de votre temps, un petit peu de votre vie et beaucoup de vos points de vue. Ils nous sont tous utiles, vos points de vue, et nous en tenons toujours compte. C'est une promesse. 3210, voici le numéro qui nous relie, car cette émission est la vôtre. Et ici, vous le savez, nous pouvons parler de tout, de ce qui vous touche, de tout ce que nous avons en commun ou pas. Et nous connaissons tous ou connaîtrons un jour la douleur éprouvée à la mort d'une personne que l'on aime. Son absence au quotidien est bien souvent une épreuve qui nous semble impossible sur le moment à surmonter. Je ne vois pas pourquoi on ferait un travail de deuil, a un jour déclaré Michel Houellebecq. On ne se console pas de la mort de quelqu'un qu'on aime. Alors comment se reconstruit-on après une telle perte? Qu'est-ce qui peut nous aider? Comment accompagner son enfant dans le deuil aussi? Nos invités sont les psychiatres Alain Sautreau, auteur de l'ouvrage Vivre après ta mort, chez Odile Jacob. Alain, bonjour, soyez le bienvenu. À vos côtés, François Louboff, l'un de vos collègues qui a écrit le livre Dire adieu, petit guide psychologique du deuil chez Payot. Ce sont des ouvrages que je vous recommande si vous êtes dans le besoin aujourd'hui de conseils. Bonjour François Louboff, merci Bonjour. D'être avec nous. Vous avez un très joli nom de famille, on va commencer par ça. C'est un nom russe?
Oui.
Et qui veut dire
amour.
Voilà, c'est merveilleux. Parce qu'on va parler beaucoup d'amour aussi aujourd'hui. Parce que le deuil, c'est aussi une histoire d'amour que l'on doit vivre totalement différemment. On est tous confrontés un jour ou l'autre à la perte d'un proche, à cette douleur qui, sur le coup, nous semble absolument insurmontable. La reconstruction, elle passe inévitablement par le processus de deuil, qui est composé de plusieurs étapes. En fait, c'est naturel, ça nous permet simplement de nous adapter et de survivre à la douleur, François Louboff.
Non, oui, le deuil, c'est un processus, c'est quelque chose qui est évolué. Qui va durer un certain temps. Nous passerons tous par des deuils souvent multiples dans notre vie.
Oui.
Et ce processus, il est naturel en fait. On n'a généralement pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que la citation de Houellebecq me chagrine un petit peu, parce que le travail sous-entend quelque chose d'actif. La plupart du temps, quand on est en deuil, ce processus se fait de lui-même. On n'a pas à être actif pour le faire, c'est comme une grossesse. Ça se fait tout seul.
Alain Sautreau, ça veut dire qu'il faut laisser faire, en fait. Il ne faut pas avoir peur, on y reviendra. On a déjà plein de messages qui nous disent « j'ai peur de mes émotions, j'ai peur de mon chagrin ». Alain Sautreau, il faut avoir confiance dans ces moments-là?
Il faut avoir confiance parce qu'il n'y a pas d'humanité sans deuil, il n'y a pas même de monde vivant sans deuil. C'est un processus automatique, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir parfois des écueils. Mais effectivement, on peut avoir confiance dans notre capacité à nous adapter à cette nouvelle réalité qui est la perte de nos êtres chers.
Alors qu'est-ce qui fait, là la question je vous la pose à l'un et à l'autre, que nous ne réagissons pas tous de la même manière face à la perte d'un être cher, Alain ?
Parce qu'on ne perd pas la même personne, c'est quelque chose qui est très net. Par exemple, quand on perd un père, si ce père avait par définition une épouse ou sa propre mère, eh bien le deuil de la mère qui a perdu son mari n'aura rien à voir avec le deuil d'un fils qui a perdu son père. Donc pour un même défunt, les personnes les plus proches vivent des deuils tout à fait différents. Et puis l'autre raison, c'est bien évidemment les circonstances de la mort vont avoir un impact majeur, selon que la mort est violente ou pas, et selon que la mort est attendue ou pas.
François Louboff, même si le processus est naturel, on y reviendra sur les différentes étapes du deuil, on n'est pas tous armés de la même façon non plus pour se laisser porter ou pas par ce chagrin.
Bien sûr, il y a une notion importante qui rentre en jeu, c'est la notion d'attachement. C'est-à-dire que selon qu'on a vécu un attachement sécurisant avec un parent qui aura été disponible d'une manière prévisible, d'une manière soutenante, si on a vécu un attachement sécurisant, les autres séparations que nous aurons à affronter se feront probablement bien. Si on a un attachement insécure, les problèmes apparaîtront.
Est-ce qu'on peut revenir sur les étapes classiques du deuil, Alain Sautreau? Quelles sont-elles? Dans les grandes lignes, on reviendra après dans le détail.
Vous touchez du doigt un des malentendus sur le deuil, c'est-à-dire qu'il y a une description qui est faite, qui est connue, la phase de la colère, du déni, de la dépression, etc. En fait, on a pu montrer très clairement maintenant qu'il n'y a pas d'étape constituée. Il y a des vagues émotionnelles qui effectivement comprennent la colère, qui effectivement peuvent connaître la dépression. Mais toutes ces vagues sont simultanées. C'est ça qui est très important, c'est qu'elles sont simultanées.
Oui.
Et l'émotion princeps, l'émotion principale du deuil, ça n'est ni la colère ni la tristesse, c'est l'état de manque. C'est l'état de manque qui caractérise spécifiquement cet état de deuil.
l'état de manque, l'idée de devoir apprendre à vivre sans l'autre, et ça, vous y consacrez plusieurs lignes de votre ouvrage. Quand on lit le vôtre, François Leboeuf, on a quand même le sentiment qu'il y a des étapes dans le deuil.
Non, j'ai simplement décrit ce par quoi on peut s'attendre, oui. Ce qu'on peut s'attendre à vivre,
d'accord.
À ressentir à un moment donné de son processus de deuil. En fait, les étapes, certaines peuvent ne pas exister, mais je pense que c'est important de pouvoir prévenir chacun que, confronté à une émotion particulière, il soit rassuré. Ça fait partie de ce qu'il est normal de vivre la plupart du temps.
Et c'est vrai que quand on lit vos ouvrages ou quand on vous écoute, on se dit qu'effectivement on a besoin de ce guide psychologique du deuil tel que vous l'avez appelé. C'est qu'on a tous ça en commun et il est une expérience aussi du chagrin qui doit se redonner et qui permet aux autres d'avancer peut-être d'un pas plus assuré. En tout cas, ne pas avoir peur de ses émotions. Sydney nous écoute. Je viens de perdre ma maman il y a tout juste une semaine. Je me retrouve donc orpheline. C'est très difficile d'accepter cela. Et puis on a également Christelle qui nous dit cela fait 8 ans que j'ai perdu mon papa d'un AVC. Mon entourage me disait, tu verras, avec le temps, ta peine va s'atténuer. Erreur, je ne m'attends toujours à le voir ou à l'entendre. Je suis consciente que je n'ai pas fait mon deuil. Mon échappatoire, lui rendre visite au cimetière et lui parler pour lui raconter ce qui nous arrive. On va revenir sur le deuil, parce que est-ce que ça a une durée standard? Est-ce que effectivement on peut ne pas faire le deuil toute une vie, et quels sont les écueils à ça? On en parle avec vous. Vous êtes nos invités. Avec vous, si vous composez le 3210, si vous allez sur la page Facebook aujourd'hui, on parle de chagrin, mais on parle aussi d'amour et de reconstruction. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
François Leboeuf et le docteur Alain Centreau sont vos invités aujourd'hui. Nous parlons de la reconstruction après la perte d'un être cher. Et vous êtes très nombreux déjà à réagir. Séverine, si vous êtes à notre écoute, nous sommes en train d'essayer de vous appeler afin que vous nous éclairiez aussi de votre propre expérience. Mais auparavant, un message de Catherine. Je prends la vie comme un passage. La mort a agi autour de moi, comme beaucoup d'entre nous. La douleur est difficile car elle est personnelle. La mort a failli prendre la vie de ma petite fille à sa naissance la semaine dernière, mais celle-ci a pris le dessus. Profitons et allons de l'avant, Catherine. On vous souhaite évidemment tout le bonheur possible. Et puis un message également qu'on nous a laissé sur notre blog. Je suis passée par là il y a peu. Mon époux est décédé d'une maladie en 2010. Au fil des jours, j'ai apprivoisé l'absence. J'ai repeint ma vie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Cette épreuve et ce chemin de deuil m'ont permis de grandir et surtout de vivre pleinement ici et maintenant. Vivre, survivre à la personne qui est partie, il est tout à fait normal, Alain Sautreau et François Leboeuf, de penser que finalement la partie n'est pas gagnée et que c'est un défi impossible sur le moment. La douleur, elle est indicible. Est-ce qu'il faut en passer par là? Est-ce qu'il faut savoir l'accepter, Alain Sautreau?
Oui, la douleur du deuil, c'est le prix qu'on paye à l'attachement.
Oui.
C'est-à-dire que si on n'était pas attaché, il n'y aurait pas de douleur. Moi, je fais souvent une comparaison avec le fait de se couper. Quand on se coupe, on a mal parce qu'il y a une plaie qui s'ouvre et puis il va falloir du temps pour qu'elle cicatrise ou pas.
Oui.
Et cette douleur-là, on n'a pas de solution à court terme, si ce n'est avoir confiance dans le lendemain. Elle va s'amenuiser et accepter de la ressentir. Il faut accepter de ressentir cette douleur et de ressentir l'absence pour pouvoir s'y adapter et pour pouvoir réparer cette déchirure progressivement dans le souvenir.
Alors, il faut la traverser, la douleur, François Leboeuf. On a un message de Lily. J'ai perdu mon fils le 2 avril 2010. Il avait 21 ans. Un amour de garçon. Depuis, j'enfouis la douleur et la souffrance au fond de moi car j'ai peur d'elle. J'ai peur de les ressentir et de m'écrouler. Je sais que je vais devoir vivre avec elle et les apprivoiser afin qu'elle s'apaise. Qu'est-ce que l'on peut dire à Lily?
Donc, Lily est très lucide sur le danger qu'elle ressent. Elle se protège actuellement. La protection peut durer longtemps si elle ne fait pas quelque chose pour arriver à se confronter à sa souffrance. Alors, faire quelque chose, c'est être aidé probablement dans son cas. Se confronter à sa souffrance, c'est la ressentir. C'est la vivre, c'est l'exprimer. C'est aussi avoir confiance dans nos capacités innées, en fait, naturelles, de traverser ces étapes.
Je voudrais qu'on revienne sur ces étapes, si vous le voulez bien, pour ceux qui nous écoutent. Parce que je sais que ça n'est pas dogmatique, mais quand même, on est tous passés par là, ou on va tous passer par là. On apprend la mort de quelqu'un. Bien évidemment, on paye le prix de l'attachement. Bien évidemment, tout dépend des circonstances de la mort. Mais dans un premier temps, on est sidéré, on est dans le déni. Après, il y a l'acceptation. Je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Pardonnez-moi, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent.
Alors, C'est un sujet de débat, c'est-à-dire qu'il faut, il faut être tout à fait clair sur le problème des stades de, du deuil. C'est quelque chose qui a été décrit dans les années 50 sur les soins palliatifs, c'est-à-dire c'était l'annonce d'une mauvaise nouvelle, donc en pratique on vous annonçait que vous alliez mourir. Donc on a décrit les stades de deuil sur le fait que la personne envisageait sa propre mort. Oui. Donc là effectivement, on vous annonce une très mauvaise nouvelle, vous êtes d'abord sidéré, vous êtes en colère, vous êtes déprimé, etc. Dans le cas du deuil, on comprend très bien que si la mort est attendue, par exemple, dans une très très longue maladie, et que vous vivez l'agonie de la personne aimée, non seulement la mort n'apporte pas forcément de colère, mais elle apporte souvent un soulagement, parce que l'entourage améliore son état de santé d'avoir cessé de voir l'être aimé souffrir. Donc il faut à la fois savoir qu'il y a des états émotionnels qui vont se chevaucher, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'en aucun cas les gens doivent chercher un état émotionnel pour se repérer.
J'entends.
Parce que ce repérage est strictement individuel en fonction de l'histoire du défunt et de l'histoire de notre relation.
D'accord, ok. Mais enfin, on ne doit pas suivre ça étape par étape, step by step, mais on peut aussi s'en référer en se disant que finalement, dans notre parcours, ce ressenti-là est rassurant et il est normal.
Mais pas plus que ça, parce qu'en fait, ces états-là sont partagés, que soit la colère ou la tristesse ou l'abattement, ce sont des états qui sont partagés avec d'autres états psychologiques.
Oui.
Le seul état spécifique, c'est l'état de manque. Et moi, personnellement, je connais pas ce qu'en pense François, mais moi, personnellement, j'ai vu plus de gens perdus par cette cartographie un petit peu téléphonée du deuil que des gens qui sont éclairés concrètement. Ils disent, par exemple, ben, moi, j'ai jamais été en colère, docteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'aimais pas le défunt? Bien sûr que non, on n'est pas en colère dès lors que la mort est attendue et qu'elle était prévue depuis longtemps.
François Le Goff.
Je crois que toutes les émotions peuvent apparaître au cours d'un deuil. Bien sûr, typiquement, on dit, il y a la tristesse, évidemment, le chagrin, etc. Il y a la colère. Parfois, souvent, mais pas toujours, il y a la culpabilité, il y a la honte, il y a des émotions qui peuvent être exister ou qui peuvent ne pas être là. Il y a même des deuils qui se produisent, qui se passent sans tristesse.
Oui.
Néanmoins, on sait quand même que la majorité des émotions, la culpabilité, la colère, sont des émotions qui viennent recouvrir la tristesse. Et l'émotion principale, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est le fait d'être déconnecté de son proche. Et c'est cette déconnexion qui est terrifiante. Alors après, l'aide qu'on pourra apporter aux gens, c'est effectivement leur permettre, les aider à se reconnecter avec le défunt, mais d'une manière différente.
Alors, se reconnecter avec le défunt, c'est visiblement une quête de tous ceux qui ont perdu quelqu'un. J'ai perdu mon père il y a bientôt 2 ans, nous écrit Endorphine. La douleur est toujours présente, même si elle s'est atténuée. Comment j'ai réussi à surmonter son absence? Je lui parle tous les jours, je me dis qu'il est là près de moi comme un ange gardien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me fait du bien de le croire. Mon prochain tatouage sera d'ailleurs cette phrase de George Sand. L'oubli est le vrai linceul des morts, tout est dit.
Alors, on va rebondir là-dessus. En citant effectivement la phrase de Cocteau qui lui dit que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Alors c'est vrai que le processus du deuil, il va se dérouler, il va prendre un certain temps et il aboutira dans le meilleur des cas à cette intériorisation de la personne qu'on a aimée qui va rester avec nous. On est très loin maintenant de ce qu'on croyait il y a quelques dizaines d'années quand on disait il faut rompre le lien avec le défunt. Il est parti, il ne reviendra plus. Certes, il ne reviendra plus, mais on doit au contraire, maintenant on le pense, maintenir un contact, un lien. D'ailleurs, tous les gens qui sont en deuil le décrivent. Je lui parle, il me regarde, nous communiquons, je lui pose des questions, je lui demande conseil. Il y a vraiment un lien qui persiste.
Mais est-ce que ça n'est pas nier la mort de quelqu'un que d'essayer d'être en connexion, justement, Alain Sautreau?
Je pense que le problème du lien est très bien illustré par François, c'est-à-dire que le lien il va se maintenir parce que l'être attaché nous constitue, la relation nous a constitué, elle nous a nourri pendant tellement d'années qu'elle est en nous. Après, la question de savoir quelle place à ce lien, une fois que la personne est décédée, c'est tout le problème du deuil. C'est-à-dire qu'il faut que cette place soit harmonieuse avec sa propre identité. Il faut en particulier pas que le défunt prenne toute la place. Et c'est un des problèmes du deuil qui se prolonge.
Voilà, et cette durée du deuil, on y reviendra dans un instant. Denise a composé le 32-10. Denise, je sais que vous êtes en ligne. On va se retrouver dans un instant parce que je voudrais vraiment qu'on ait du temps à s'accorder. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Denise a perdu son époux il y a 6 mois et elle a besoin de nous parler. Denise, à tout de suite. Quant à vous, n'hésitez pas, 32-10. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Denise, bonjour.
Oui, bonjour.
Denise,
bonjour, Flavie.
Je vous remercie. Je
suis très heureuse de pouvoir converser avec vous. J'écoute tous les jours votre émission et c'est ce qui m'a poussée à vous parler parce que vous êtes à même de comprendre les personnes.
Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous présente nos invités parce que c'est surtout eux, Denise, qui vont pouvoir peut-être répondre à certaines des questions que vous vous posez aujourd'hui. Vous êtes dans la douleur, Denise, hein, aujourd'hui.
Oui.
Vous êtes dans la douleur du départ de votre époux qui est décédé il y a 6 mois d'un cancer foudroyant. Quand on parle de cancer foudroyant, Denise, ça veut dire que vous avez été foudroyée par le chagrin aussi et que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à quoi que ce soit?
Oui, exactement. Quand les médecins m'ont dit, écoutez, on peut plus rien faire pour lui, que c'était trop tard, qu'il fallait me préparer, j'arrivais pas à admettre, je comprenais pas, je dis mais c'est pas possible, je me suis révoltée un peu parce que je me suis dit que la médecine quand même, il y avait des progrès, qu'on pouvait quand même faire quelque chose parce que c'était quelqu'un qui était plein de vie et puis de corpulence et en le voyant comme ça, on n'aurait pas cru qu'il y aurait pu décéder si vite. Donc je n'ai pas compris et j'arrive pas à faire mon deuil parce que je ne comprends toujours pas. Pourquoi?
Vous ne comprenez pas pourquoi votre... Comment s'appelait votre époux, Denise?
Bartholomé.
Alors, vous ne comprenez pas pourquoi Bartholomé est parti?
Non. Toujours pas. Parce qu'il... Bon, on m'avait dit qu'il est en soins palliatifs, mais il n'a pas eu la fin de vie qu'il méritait en plus. Puis en plus, le dimanche, je l'ai vu, il allait très très bien. Et puis, en plus... Il avait encore des attentions pour moi parce qu'il savait que c'est vrai que c'était fatigant parce que j'allais le voir à l'hôpital tous les jours. Je m'occupais du là, je m'occupais beaucoup de lui parce que il y a des jours il n'arrivait pas à manger, ça dépendait. Et puis il était même attentionné puisqu'il voyait que parfois j'étais fatiguée. Il me dit écoute, c'est pas la peine de venir demain. Il dit tu viendras mardi. Et puis donc je me suis un peu fiée, je me suis dit bon, il allait bien le dimanche, donc ma foi. Et puis, je suis arrivée le mardi, il était agonisant, donc j'ai rien compris. Personne ne m'a expliqué, je suis restée avec ça devant moi. J'ai pas compris pourquoi il était agonisant. Aucun médecin ne m'a expliqué, ne m'a dit qu'est-ce qui s'était passé. Et toujours est-il qu'il est mort dans la soirée, donc j'arrive pas à faire mon deuil.
Je comprends. Ce que j'entends aussi, c'est que Bartholomé, il a été présent pour vous, Denise, même dans ces moments où vous deviez vous préparer à l'absence. C'est-à-dire qu'il a toujours été là pour vous, avec des attentions, avec un échange. Mais je comprends. Vous savez, on va se tourner vers Alain Sautreau et François Loboff parce que je pense que eux vont pouvoir beaucoup plus vous aider. Que vous inspire Alain Sautreau et François Loboff l'histoire de Denise et son incompréhension? C'est-à-dire qu'il y a cet état de sidération et Denise, elle n'est pas d'accord.
Alors bien sûr, sidération parce que c'est un deuil qui survient sans avoir été annoncé. Oui. Et Denise, vous n'y comprenez rien. Alors bien sûr, les médecins auraient dû vous donner plus d'explications.
Non.
Voilà,
ça ne s'est pas produit.
Solitude. Alors, quand on est confronté à un deuil aussi brutal, on a tout, même quel que soit souvent le deuil, on a toujours besoin d'avoir une réponse à la question pourquoi. Cette recherche de cause, elle est obsessionnelle, elle est permanente, elle est torturante. Parfois, on a une réponse. Il y a une maladie, on peut expliquer la maladie, on sait ce qui s'est passé, et parfois on n'a pas de réponse. Et on doit quand même s'engager dans son processus de deuil sans avoir de réponse à cette question pourquoi. Et peut-être que vous allez devoir passer par ce processus de deuil sans avoir de réponse à la cause. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'évolution dans votre deuil. Maintenant, vous savez, votre mari est décédé il y a peu de temps et vous ne pouvez pas vouloir dès maintenant avoir terminé votre deuil. C'est un processus qui va vous demander du temps.
Alain Sautreau, qu'est-ce que vous pouvez dire à Denise?
Je pense que Denise exprime le sentiment essentiel qui est d'une part la tristesse et d'autre part l'état de manque de celui qui l'a accompagné pendant 30 ans. Et je crois que la première chose à dire à Denise, c'est que cette souffrance-là, on n'a pas la solution. La véritable question qu'il faut se poser dans cette souffrance, c'est est-ce que demain est un petit peu meilleur qu'aujourd'hui parce que il va falloir pour elle, pour sa santé, se recouvrir et retrouver un état de fonctionnement. Mais en s'écartant un tout petit peu de la question de Denise, je rebondis sur la question de la compréhension, qui signifie finalement la question de la justice de la mort, hein, la mort injuste et la mort juste.
J'allais y venir justement.
La mort prévisible, la mort normale et la mort anormale. Et je pense que quand on est sur ces pistes-là, sur ces chemins de recherche de cause, de compréhension, on est sur un chemin très dangereux pour la santé du survivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort injuste, parce que si on disait qu'il y avait une mort injuste, ça voudrait dire qu'il y a une mort juste. Et quand on a passé 30 ans de sa vie avec quelqu'un, comment voulez-vous lui dire que la mort est juste ?
Oui, bien sûr.
Donc, on confond toujours la cause et le réconfort. Et le réconfort, il est dans la place que j'espère Denise arrivera à conférer à son mari, cette place extraordinaire où, comme vous le disiez, jusqu'au dernier jour, il s'est occupé d'elle.
Oui.
Puisque jusqu'au dernier jour, il lui a dit « Tu peux me laisser, tu n'es pas obligé de venir tous les jours me voir. » Et ça, je crois que c'est très très important de remarquer que ce lien se maintient jusqu'au dernier souffle du défunt, mais va se maintenir après, grâce à cette relation nourricière que personne ne pourra jamais enlever à Denise. C'est ses 30 années de bonheur.
Denise, vous voulez bien rester en ligne ?
Oui, bien sûr.
Si vous le voulez bien, on va se retrouver dans un instant et on va poursuivre notre conversation, d'accord ?
Bien sûr, d'accord.
Allez, ne bougez pas, à tout de suite, Denise.
RTL, toujours avec vous. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
À la disparition de ma maman, nous avons choisi l'épitaphe « Ne meurent que ceux que l'on oublie », nous écrit Marie-Madeleine. Elle est auprès de moi chaque jour, je lui parle et afin de mieux supporter l'épreuve, j'ai essayé de ne plus penser aux derniers moments difficiles, mais au contraire à tous les bons moments partagés ensemble. Denise, vous êtes toujours en ligne avec nous.
Oui, bien sûr.
Denise, vous êtes dans la douleur du départ de Bartholomé, c'était il y a maintenant 6 mois, cancer foudroyant, vous n'étiez pas préparée à ça et Alain Sautreau insistait sur effectivement le fait que vous soyez en colère aujourd'hui, qu'il ne faut pas être dans la négation, évidemment, de votre chagrin. Il faut accepter cette douleur qui est indicible, ça je l'entends, mais qu'il faut aussi se souvenir des bons moments. Et c'est pour ça que je relis le message de Marie-Madeleine, parce que c'est important, Alain Sautreau, peut-être pour Denise, de savoir que il ne faut pas nier le passé, il faut savoir aussi pouvoir s'y replonger avec une certaine sérénité.
Oui, c'est la rêverie triste, c'est-à-dire c'est la nostalgie. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est ce terme de nostalgie. La nostalgie, c'est la tristesse d'avoir été heureux.
Oui.
Et donc, cette cohabitation de ces deux états émotionnels qui semblent contradictoires, ces deux états prennent en fait tout leur sens dans le deuil.
Oui.
Et donc, Denise, je lui souhaite, va trouver petit à petit un chemin pour faire coexister à la fois le manque, donc la tristesse, et puis le fait d'avoir été heureuse et tout ce qui va pouvoir vivre avec le souvenir de son mari en elle et jusqu'à sa propre mort.
Denise,
c'est vrai que j'ai la nostalgie, c'est vrai que je pense beaucoup aux bons moments qu'on a vécu ensemble. Chaque instant, disons chaque semaine, chaque mois, il y a toujours une sorte de petite pensée parce que nous faisions beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai, c'est cette nostalgie qui me fait voir maintenant parce que j'ai perdu mon repère, j'ai perdu mon point d'appui, j'ai tout perdu pratiquement. Bien que je sois entourée de très grands amis, personne ne me laisse seule. Au contraire, on me dit qu'il faut revivre, il est dans ton cœur, il est là, il veille sur toi. Mais c'est cette chose que je n'arrive pas à admettre. J'ai perdu mon repère, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon repère. Et cette vie s'est effondrée autour de moi. Et voilà,
Denise,
j'ai du mal à m'y faire.
J'entends.
Je n'arrive pas à faire mon deuil.
Est-ce que vous avez construit une famille, quelque chose avec Bartholomé ? Est-ce que vous êtes maman ? Est-ce que vous êtes grand-mère ?
Non, avec mon époux, nous n'avions pas eu d'enfant.
D'accord.
Par contre, il avait eu l'enfant d'un premier mariage, avec qui je suis restée en très bon terme.
C'est très important, l'entourage, François Louboff aussi, de ne pas être seule. Denise, elle insiste, elle dit « j'ai perdu tous mes points de repère », mais est-ce qu'on ne peut pas s'en créer de nouveau en n'oubliant pas le défunt ?
Alors voilà, l'évolution souhaitable, bien sûr, c'est que le décès de votre mari va vous obliger à changer. Vous allez changer d'identité. Avant son décès, vous étiez son épouse. Aujourd'hui, vous avez un nouveau statut, une nouvelle identité, et vous allez devoir changer pour acquérir et consolider une nouvelle identité. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes amis, vous allez peut-être en créer d'autres, vous allez pouvoir vous lancer dans d'autres activités qui n'existaient pas auparavant. Vous allez devoir prendre en charge ce que votre mari faisait auparavant et que vous allez devoir faire vous-même maintenant. Donc c'est ce changement qui va, ce sont ces changements qui vont vous mener à être quelqu'un d'autre. Et vous allez guérir de votre deuil en étant quelqu'un d'autre.
Denise ?
Oui.
Je suis vraiment navrée, je vais devoir
non pas vous
quitter, mais parce qu'on ne vous quitte évidemment pas et que je sais que vous allez rester à notre écoute, mais j'espère que...
Je vous remercie beaucoup.
On aura pu vous apporter peut-être un petit peu, en tout cas du soutien, c'est tout ce qu'on veut vous apporter. Et puis,
tout à fait.
Vraiment, je vous invite à vous tourner vers les ouvrages d'Alain Sautreau, Vivre après ta mort et François Louboff, Dire adieu, parce qu'ils aident vraiment, ils sont très pratiques. Alain Sautreau, en deux mots, vous vouliez dire quelque chose à Denise avant qu'on...
Oui, on peut quand même donner quelques conseils dans le deuil aigu, dans le deuil des premiers mois. C'est qu'il faut se centrer sur des activités de plaisir,
oui,
et surtout des activités très simples. Souvent, les endeuillés veulent faire des choses très compliquées. Il faut faire des choses simples du quotidien. Et dans les activités sociales, se centrer sur les pôles de sécurité, les gens de confiance, et de faire des actes très quotidien pour restaurer un certain dynamisme.
Prenez soin de vous, Denise.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse.
Et merci beaucoup pour les conseils judicieux. C'est très très gentil.
Mais écoutez,
ça fait beaucoup de bien.
Eh bien, on essaie. Je vous embrasse, Denise. Bon courage à vous.
Merci, moi aussi. Au revoir.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je sais, comme tous nos auditeurs, que vous êtes encore à notre écoute. Et justement, François Louboff, vous vouliez revenir sur le thème d'injustice, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort en fait dans le témoignage de Denise.
Voilà, la plupart du temps, quand un drame s'abat sur nous, la première réaction qu'on a, c'est de dire « mais c'est pas possible, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»
Oui.
Alors, comme si le malheur ne devait toucher que les autres. Alors qu'en fait, le malheur ne choisit pas, il s'abat sur tout le monde. Donc il n'y a pas de notion de... La notion de justice et d'injustice renvoie à ce que les êtres humains ont décidé. C'est-à-dire que la justice, c'est ce qui est écrit dans les textes de loi. Or, il n'est pas écrit dans les textes de loi que la mort n'existe pas, que la maladie n'existe pas, que l'accident n'existe pas. Donc plutôt que de parler d'injustice, je pense qu'il serait mieux de parler d'inégalité. Voilà, la mort est inégale, mais comme la vie est inégale.
Alain Sautreau, est-ce que le deuil se termine un jour ? Est-ce que c'est quoi le deuil ? Parce que faire le deuil, ça veut dire qu'un matin, on se réveille et puis on est connecté à celui qui est parti, on se sent apaisé, on y pense sans chagrin.
Oui, la difficulté de la langue française, c'est qu'on a un seul terme pour parler de tas de oui, choses. Hein. Donc, classiquement, le deuil, c'est le processus de déchirure lié à la mort. Et donc, on imagine bien qu'à un moment donné, il y a une cicatrisation. Mais la façon dont vous posez la question amène une réponse très précise. Le deuil, dans un certain sens, ne se termine jamais parce que le souvenir ne s'en va jamais. Donc les êtres auxquels on a été attachés, bien évidemment, ne disparaissent jamais. Et c'est tout ce processus de chemin de deuil qui est à faire pour relocaliser le défunt dans une place qui est en nous et non pas dans une place qui est parfaitement détachée. Donc à la fois, ça se termine un jour.
Oui.
Un jour, on a cicatrisé quelque chose, la douleur aiguë s'est arrêtée. Et à la fois, ça ne se termine jamais parce que le défunt est en nous.
Il en est certains qui ne s'en remettent pas. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense, et je pense que certains sont à notre écoute.
Oui, c'est un des tabous du deuil, hein. Il y a un certain nombre de malentendus, il y a des tabous, et le tabou principal, selon moi, est de nier l'existence d'une maladie du deuil, maladie du deuil chronique. Il y a plusieurs termes, il y en a qui parlent de deuil compliqué. J'aime bien le terme de deuil prolongé, c'est-à-dire que c'est un deuil qui fait souffrir anormalement longtemps. Et qu'est-ce qu'on entend par anormal ? On entend par anormal le fait que l'endeuillé ne s'en remet jamais, c'est-à-dire qu'il ne retrouve jamais un chemin à peu près harmonieux. Et cette maladie du deuil est cachée, on peut peut-être en dire dans 10 secondes,
pourquoi ? Oui,
parce que les grands deuils de l'histoire, ce sont les guerres. Et après les guerres, personne n'avait envie de parler des veuves et des orphelins et des gens qui avaient perdu leur fils. Et donc il y avait un tabou qui s'est installé, ce qui fait que la plupart des associations d'endeuillés sont des associations de veuves de guerre initialement. Actuellement, en 2013, on profite de chiffres d'études très bien faites qui ont été réalisées dans les pays européens et occidentaux, qui montrent qu'environ 2 à 3% de la population souffre de deuil chronique. C'est-à-dire que 2 à 3% de la population, ce qui correspond environ à 1-2 millions de Français, souffre d'une douleur qui ne passe pas et qui les handicape. et oui. non pas le problème du souvenir qui fait mal. Le souvenir reste triste, mais je parle de douleur qui est handicap et qui nécessite un traitement.
À l'instar d'Annie sur Facebook, j'ai perdu mon mari subitement il y a un peu plus de 2 ans. Je l'ai retrouvé mort dans son lit sans raison. C'était, il avait 60 ans. Ce fut et cela reste un tsunami. Cela m'a dévasté, mes enfants également. Ça a été pendant 40 ans le seul homme et le seul amour de ma vie. J'avais 15 ans quand je l'ai rencontré. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme gentil, aimant, mais ma douleur est par moments si insurmontable que je me demande ce que je fais avec lui. J'ai 58 ans, j'avance, mais cela est si difficile. J'ai l'impression d'être entre deux mondes. Je me regarde vivre et je n'arrive pas à m'investir totalement. Ce vide est indescriptible. Qu'est-ce qu'elle décrit bien, justement, ce deuil chronique ?
Là, il y a le deuil chronique, mais il y a aussi l'aspect d'un deuil traumatique. C'est-à-dire qu'il y a une découverte traumatisante du cadavre de son mari, à un moment où elle, évidemment, ne s'y attend pas du tout. Donc, elle reste probablement avec des images terrifiantes qui empêchent, en fait, le bon déroulement du deuil.
Et la culpabilité aussi de vivre après le chagrin, c'est quelque chose qui peut entraver le deuil.
Toutes les émotions entravées ou masquées. Oui. C'est-à-dire que la culpabilité va masquer la tristesse. Il faut pouvoir accéder à toutes ces émotions pour arriver à ce socle qui est la tristesse et permettre à cette tristesse de se résoudre. Mais là, il y a des obstacles, je pense, traumatiques dans cette description.
J'ai perdu ma maman en janvier 2011 après 4 mois de maladie. C'est vraiment très difficile. On m'a dit, tu verras, avec le temps, la douleur est moins vive. Eh bien, je ne trouve pas. Lorsque maman est décédée, j'ai cru que l'on m'arrachait quelque chose en moi. C'est tous les jours que j'y pense. Et pourtant, j'ai un mari, j'ai 2 garçons formidables, une famille qui me soutient, nous écrit Alizée. Est-ce que le temps est véritablement le meilleur allié ou alors lorsque l'on est dans un deuil prolongé, comme vous le dites Alain Sautreau, il faut savoir se tourner vers des personnes comme vous qui permettent justement de traverser toutes ces couches pour aller enfin laisser sortir cette tristesse.
Je crois qu'il faut être très optimiste sur le deuil. Le deuil, c'est une maladie d'amour et on s'en remet. Après, dans les exemples que vous citez, spontanément, vous donnez des dates. Vous dites, ça fait 6 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et donc, vous dites finalement, en filigrane, quel est le délai après lequel on doit s'être remis. Mais il faut savoir que cette notion de seuil est très très difficile à trancher, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'expérience des suivis des endeuillés, on dit classiquement qu'au bout de 2 ans, la personne doit avoir retrouvé une partie de sa santé psychologique. 2 ans, ça peut paraître beaucoup pour certains. Il y en a qui disent beaucoup plus tôt, mais la plupart des gens disent qu'entre 1 à 2 ans, il faut s'être en partie récupéré. Ces délais sont quand même à discuter en fonction de qui on a perdu. Par exemple, on sait que les deuils d'enfants, quand on perd un enfant, on met beaucoup plus de temps pour s'en remettre. Et aussi la notion de brutalité. Les deuils d'enfants par accident, ce sont classiquement les pires. Mais enfin, je ne veux pas botter en touche. Il faut quand même dire qu'au bout de 2 ans, la très grande majorité des gens, sauf cas exceptionnels qui méritent d'être étudiés, doivent avoir retrouvé une partie de leur santé ou l'essentiel de leur santé.
François ?
Oui, je voudrais aborder le problème du traitement. C'est-à-dire que dans les deuils chroniques, comme ça, souvent les gens sont sous traitement, sous antidépresseurs, et probablement que ça intervient comme facteur freinateur de ce processus de deuil. Et c'est-à-dire que les gens prennent un traitement qui ne leur sert à rien, ils continuent de souffrir et ce traitement bloque le processus de deuil. Et je pense qu'il faut pouvoir, dans ces cas-là, arriver à diminuer leur traitement progressivement et l'arrêter et les aider à reprendre ce processus de deuil.
Est-ce que les thérapies...
Pas systématiquement, probablement, c'est affaire de cas par cas. Mais
et il est d'autres thérapies aussi hein, qui peuvent, à un moment donné, permettre de marcher sur ce
chemin-là. Oui, ce qu'il faut surtout dire sur les traitements, c'est que globalement, ils marchent mal. Alors, je ne sais pas s'ils freinent ou pas, mais en tout cas, globalement, il n'y a pas de médicaments du deuil pour des raisons neurobiologiques assez compréhensibles. Après, qu'est-ce qui est utile comme intervention ? On sait effectivement qu'il y a des psychothérapies, en particulier les psychothérapies comportementales, qui sont très efficaces. Mais encore une fois, on n'intervient pas en deuil aigu, on n'intervient pas dans les premiers mois où là on fait confiance dans le processus de séparation et cicatrisation, sauf si l'endeuillé dérape dans des conduites suicidaires ou dans des conduites d'alcoolisation.
Alors,
la même chose par rapport à la thérapie, la psychothérapie EMDR, qui est une thérapie tout à fait utile et efficace pour traiter les événements douloureux, quels qu'ils soient, on n'intervient pas non plus immédiatement. Donc il faut se donner le temps, laisser le temps à la personne de commencer son processus de deuil, et ensuite on peut intervenir.
En tout cas, grâce à vous aujourd'hui, j'espère qu'on aura pu donner certaines clés à nos auditeurs, et même à nous-mêmes d'ailleurs. Et puis faire son deuil, on le rappelle, c'est évidemment ne pas oublier. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Avant de vous citer les ouvrages de nos invités, un clin d'œil à Valérie qui nous explique que la première fois qu'elle a été confrontée à la mort de près, j'avais 25 ans, j'en ai aujourd'hui 38. On ne meurt pas de chagrin, mais que d'étapes. D'abord le déni, puis la chute longue et vertigineuse, la prise de conscience de la fragilité de la vie, l'absence que rien ne peut combler. Le temps atténue la douleur, c'est vrai, mais des séquelles demeurent. Je dois toujours être en action, j'ai fait un long travail pour aller mieux, pour mon mari, pour mes enfants, pour mes parents. Aujourd'hui, je peux de nouveau rire sans rougir. Avant ce travail, le MDR notamment, on en parlait il y a un instant, lorsque je me surprenais à être heureuse, venait immédiatement un sentiment de culpabilité, mais plus maintenant. Nous approchons de la date anniversaire de ce triste jour. Je ne sais pas si nos anges écoutent RTL, mais si vous pouviez le lui dire, Christophe, tu nous manques et nous t'aimons. Valérie, merci pour votre message. Alain Sautreau, je vous remercie d'être venu dans cette émission pour nos auditeurs avec tous vos beaux conseils et votre bienveillance. Vivre après ta mort, c'est un ouvrage que je conseille et il est aux éditions Odile Jacob. On le retrouve sur notre page Facebook. François Louboff, on a eu des messages d'auditeurs qui ont lu votre ouvrage, Dire adieu, petit guide psychologique du deuil chez Payot, et qui le conseillent également. Merci d'être venu à vous deux. Et on reprendra date pour parler de l'enfant endeuillé. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Comment gérer effectivement le deuil dans les yeux et dans l'esprit d'un enfant, c'est très important. Et on en reparlera bientôt. Merci à vous deux d'être venus. Merci. Soyez à notre écoute demain. C'est un sujet passionnant que nous vous proposons. Nous partirons à la recherche de l'enfant que nous avons été et qui toujours sommeille en nous et se réveille dans certaines circonstances de la vie. À l'âge adulte, nous gardons toujours une place pour le petit heureux ou triste que nous avons été. Et on en parlera avec Céline Raphaël, victime de la maltraitance de la part de son papa. Elle sera dans ce studio avec le psychanalyste Albert Chicon. Si votre enfance a un impact sur votre vie d'adulte, si elle vous fait mal ou vous apaise, venez nous raconter. On vous attend au 3210 à demain 15h en direct sur cette antenne. Tout de suite, de grands gamins. Voici Philippe Bouvard et les grosses têtes. Merci pour votre fidélité.